France Culture.
Question d'islam par Ali Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de l'enfer, du paradis, de leurs approches réelles, concrètes ou allégoriques et métaphoriques. En tout cas, quel sens donne-t-on à ces notions au XXIe siècle et qu'est-ce que c'est que cette foi mobilisée par les récompenses dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable pour les bienheureux et dans les tourments du feu de l'enfer pour ceux qui auraient mal agi. Et pour évoquer tout cela et ce sujet, j'ai plaisir à accueillir Ahmed Ben Salah. Ahmed Ben Salah, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Et merci à vous de venir nous faire l'amitié de nous donner de votre temps, le fruit de votre réflexion sur ce sujet ô combien central et qui a mobilisé là aussi l'esprit humain depuis toujours, depuis qu'il a donné une sépulture à son propre congénère et depuis qu'il a réalisé sa finitude. Alors vous êtes centralien, vous êtes entrepreneur et vous êtes essayiste. Et quand il vous arrive d'écrire, donc vous portez votre réflexion sur des sujets aussi théologicaux, métaphysicaux, spirituels. Quel sens donne-t-on aujourd'hui, après avoir mangé quasiment un quart du XXIe siècle, au paradis et à l'enfer ?
Alors si pour beaucoup de personnes, le paradis et l'enfer a perdu l'importance qu'il avait au Moyen-Âge, il reste malgré tout dans le monde beaucoup de gens qui espèrent aller au paradis ou au contraire échapper à l'enfer. Et j'en ai rencontré beaucoup lors de l'écriture de ce livre, aussi bien dans les pays musulmans que dans les pays catholiques. Il faut croire que ce dogme est encore présent malgré le quart du XXIe siècle que nous traversons.
Et qui serait indépassable. Nous l'avons vu avec ce qu'on appelle maintenant les djihadistes. Ceux-là agissent par volonté d'aller jouir des délices paradisiaques. Et on a parlé de 72 vierges, ce qui n'est jamais cité dans le Coran. Ça, c'est dans la profusion littéraire par la suite. C'est dire combien cette notion de récompense dans l'au-delà a son importance, ou le fait de craindre les tourments du feu sont tout aussi efficaces.
Dans ce livre, Les portes de l'enfer s'ouvrent au paradis, je passe en revue les débats qu'il y a eu au Moyen-Âge, justement, de qui sont les élus et qui sont les damnés.
Et les réprouvés.
Et les réprouvés, voilà. Aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Et cette question n'a pas été tranchée. Il y a eu de très nombreux débats. Les écoles théologiques ont des points de vue différents. Et évidemment, pour l'homme du Moyen-Âge, comme pour l'homme contemporain, il était important de savoir qu'est-ce qu'il pouvait espérer. En quelque sorte, quels sont les critères pour rentrer au paradis ou pour mériter pour l'éternité, l'enfer. Comme je l'explique, les différentes écoles théologiques ont énormément débattu sur le sujet et ne sont pas arrivées à tomber d'accord. Je pense que c'était important de remettre ces débats à l'ordre du jour pour savoir qu'ils ont toujours existé.
Alors vous prenez deux grandes figures de la littérature universelle, bien sûr, le cas de Marie, Marie 973-1057, pour donner ses dates de naissance et de mort. Comme son gentilé l'indique, il est de Mara, dans l'actuelle Syrie. Et puis, bien sûr, Dante avec sa Divine Comédie. Marie, c'est plutôt son épître du pardon. Vous prenez l'une et l'autre de ses œuvres, je devrais parler de chefs-d'œuvre en réalité, pour voir comment cette notion du paradis et de l'enfer a imprégné l'imaginaire de ces poètes. Mais d'une manière générale, comment cela a un impact réel sur la psyché des êtres humains?
Marie et Dante il faut rappeler qu'ils sont les deux premiers laïcs, à ma connaissance, à avoir écrit sur le sujet. Un sujet qui était, à l'époque, strictement réservé aux religieux, c'est-à-dire les moines, les évêques, les sermonnaires et les imams. Et il fallait quand même une certaine dose d'audace et d'érudition pour pouvoir aborder ce thème à une époque où, malgré tout, en Europe, l'inquisition régnait et la chasse aux hérétiques dans le monde musulman également. Donc, chacun va prendre des points de vue un peu différents. Dante va nous montrer le chemin du repentir du chrétien, comment mériter justement ce paradis, mais en innovant de façon incroyable par rapport à l'époque, puisque il va par exemple se débarrasser du préalable des péchés mortels et va placer les gens qui ont commis des péchés mortels au purgatoire, et donc il va donner de l'espoir à ces gens-là pour aller au paradis. Mahari va s'appuyer sur la miséricorde divine, car il considère que l'enfer est déjà sur terre, pour accepter au paradis beaucoup de gens improbables. J'explique ces notions théologiques, ces débats qu'il y a eu et qui éclairent ou peut-être même donnent des clés pour la lecture de ces deux œuvres magnifiques. Et pour nos contemporains, il est important de savoir que ces débats-là ont existé au Moyen-Âge et que les gens pouvaient en parler assez librement. Ils seront probablement très étonnés de voir ce que les écoles théologiques de l'époque osaient dire et qu'on n'oserait probablement plus dire à notre époque.
Nous verrons par la suite, si vous voulez bien, peut-être en fin d'émission, la fameuse controverse ou tout le débat qu'il y a eu en 1919, on est au premier cinquième du siècle écoulé. C'est un débat suscité par la thèse, au sens fort du terme d'ailleurs, de Miguel Assini Palacios, lorsqu'il disait que la Divine Comédie de Dante est un pastiche, au mieux, de l'épître du pardon de Marie. Et vous-même ne tranchez pas, vous dites « c'est une controverse, elle a eu lieu ». Peut-être que l'un et l'autre avaient des inspirations et qui se sont retrouvés. D'aucuns disent quand même l'épître du pardon a circulé et que Dante Alighieri a dû en prendre connaissance. D'autres s'insurgent contre cet état de fait. Comment se fait-il que le père de la langue italienne puisse devoir quoi que ce soit à Marie? Ce débat est là, ce n'est pas le but de l'émission, mais nous pourrions en parler. En revanche, continuons sur l'idée de l'enfer et du paradis. Comment, selon les différentes écoles que vous avez étudiées, se présente le paradis et le paradis coranique?
Au Moyen-Âge central, il y a eu plusieurs écoles théologiques. Il y a les écoles traditionnistes, sunnites, il y a les écoles chiites, mais il y avait aussi des gens qui se sont inspirés de la philosophie grecque et qui ont voulu interpréter le Coran à la lumière de la raison. Il s'agit de l'école Mu'tazalite et des Falasifa. Et puis, il y a les Soufis.
Les Falasifa étant l'appellation arabe des philosophes au pluriel, qui sont les philosophes et linaisons.
Exactement. Beaucoup de questions se posaient. Est-ce que l'enfer est éternel ? Certains pensaient que Dieu, dans sa miséricorde, finirait par abolir l'enfer. Est-ce que les délices décrits, les houris et autres délices sont des délices réels ou allégoriques ? Certains pensent que c'est des délices réels, d'autres pensent que c'est tout à fait allégorique. Il y avait aussi la question, qui mérite le paradis ? Est-ce que tous les monothéistes, à condition qu'ils croient en l'unicité de Dieu et en la prophétie, seront au paradis, comme le dit le Coran d'ailleurs, ou est-ce qu'il faut beaucoup plus pour mériter le paradis ? Est-ce que, par exemple, toutes les activités cultuelles, le jeûne, le pèlerinage, etc., sont aussi importants, sinon indispensables pour rentrer au paradis. Et là aussi, le débat n'était pas tranché, puisque certains pensaient que c'était absolument indispensable, d'autres pensaient que non. Donc, vous voyez que déjà au 9e et 10e siècle, dans le monde musulman, ce débat faisait rage et toutes les thèses ont été émises et toutes les possibilités ont été évoquées.
En tout cas, c'est pas nouveau puisque le séjour des bienheureux dans l'au-delà a été évoqué. Nous avons tous appris les Champs-Élysées et ces lits d'asphodèle, ou ces prairies en tout cas d'asphodèle, où lorsqu'on est plongé dans le fleuve de l'oubli, le fleuve l'été, afin de découvrir ou de comprendre ou de se voir révéler les mystères orphiques, ce séjour-là est réservé aux gens vertueux, à ceux qui ont bien agi. On trouve aussi dans la tradition du judaïsme et du christianisme un séjour pour les âmes vertueuses. Et le Coran nous parle d'un paradis qui n'est pas très prolixe, même s'il y a certaines descriptions, c'est plutôt la tradition, en tout cas par la suite, qui lui donne ces descriptions que certains prennent au pied de la lettre.
Il y a un monde entre la description du paradis et de l'enfer à l'époque de la Révélation et plusieurs siècles après. Des exagérations absolument incroyables. Mais il y a aussi un autre débat qui s'est posé, aussi bien, surtout dans le christianisme, et je pense aussi en islam, sur la raison et la foi. Est-ce que les vertus, comme je vais parler comme un chrétien, les vertus cardinales, les vertus que tout homme, quelle que soit sa religion, peut acquérir, sont suffisantes pour mériter le paradis, ou est-ce qu'il faut en plus les vertus théologales, c'est-à-dire celles qui relèvent de la foi, pour mériter le paradis ? Alors, c'est un débat que à la fois Ma'ari et Dante ont abordé, Ma'ari étant plus tranché sur la raison, sur l'utilisation de la raison. Il dit que la raison est le seul prophète que l'homme peut avoir. Et sur Dante qui, bien que très attiré durant sa vie par la philosophie, pense que, comme beaucoup de chrétiens, que la foi est nécessaire, que la théologie est supérieure à la philosophie et qu'elles sont nécessaires pour permettre à l'homme de découvrir le vrai chemin du paradis. Et au fond, beaucoup de choses tournent autour de ce débat.
Il y a aussi la notion de la description elle-même. Est-ce une approche intellective symbolique, métaphorique et allégorique, ou est-ce une description à prendre au pied de la lettre? Alors d'aucuns ajoutent, si la révélation coranique avait lieu en Flandre bien plus tard, nous aurions eu des descriptions du paradis conformes au triptyque de Jérôme Bosch, ou les fins dernières seraient conformes au polyptyque de Roger van der Weyden, aux Hospices de Bonn. Et on découvre que c'est selon le lieu où s'articule avec la culture que ces descriptions sont dessinées presque au sens premier du terme. Si la révélation coranique avait lieu en Laponie, ce ne serait pas la fraîcheur ou la verdure qu'il y a lieu de mentionner comme une rétribution, mais ce serait peut-être les tropiques et la chaleur. Donc il y a lieu de tenir compte des circonstances.
Déjà dans le Coran, on dit que le Coran a été révélé avec des allégories pour permettre au maximum de gens de saisir le sens du Coran. Cela ne veut pas dire qu'il fallait prendre ces allégories au pied de la lettre. Bien entendu, certains ont persisté sur le fait qu'il fallait les prendre absolument au pied de la lettre. Peut-être c'était plus facile d'avoir des troupes que d'expliquer la science divine qui est difficile. Et donc, force est de constater que les gens qui prennent le Coran au pied de la lettre ont peut-être pour le moment marqué des points.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, mais aujourd'hui avec Ahmed Ben Salah, centralien, un homme de rigueur scientifique et aussi un entrepreneur, qui est essayiste, qui réfléchit sur ces questions-là. Et là, nous parlons du sens que peut avoir encore le paradis, quel sens peut avoir encore l'enfer au XXIe siècle. Et qu'est-ce que c'est que ces notions qui mobilisent des psychés humaines véritablement? Pour cette deuxième partie, si vous voulez bien, Ahmed Ben Salah, parlons de la critique de Ma'ari, un homme, un génie pour son temps. Nous aurions pu même parler de lui, lui consacrer une émission ad hoc, quand il a passé en revue toutes les sources ou tout ce qui évoque ces notions de paradis et d'enfer, les sources coraniques, les débats théologiques, les approches, la tradition populaire, les sources poétiques, et certains cas, le prince qui mobilise ça pour soit allécher, si je puis dire, le peuple, soit lui faire peur.
Ma'ari est un homme qui a été frappé par le destin très très jeune. Il est aveugle.
Dès l'âge de 4 ans.
Dès l'âge de 4 ans. Il vit reclus. C'est un ascète, mais qui a passé beaucoup, beaucoup de temps à réfléchir. Et il croit fermement à la raison. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui croit en Dieu, c'est un déiste, mais qui se pose beaucoup, beaucoup de questions sur le sens de cette vie, sur le destin après la mort. Il n'a pas de réponse. D'ailleurs, il critique les hommes de religion et les exégètes qui veulent nous dire ce que sera l'au-delà, parce qu'il dit que cette science ne leur est pas, n'est pas à leur portée et qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Évidemment, il dénonce également tous les abus des sultans, des émirs, des imams qui essayent de profiter de l'ignorance populaire pour leur distiller un venin qui va obérer leur raison. Donc c'est un homme absolument extraordinaire, d'une très grande sensibilité, et on pourrait même dire aujourd'hui que c'est presque un homme de gauche. C'est certainement un homme de gauche. Moi, on m'a dit, en lisant les passages de l'Épître du Pardon, mais c'est un 68ard.
Oui, c'est vrai, parce qu'on a redécouvert, en tout cas le « on » sont ceux qui savent, ça reste extrêmement restreint, ce chef-d'œuvre, certains n'osent pas, osent ajouter l'épithète absolue, un chef-d'œuvre extraordinaire qu'est l'Épître du Pardon. Qu'en est la genèse de cette épître? C'est le fait de répondre à un de ses contemporains qui se pose des questions sur l'enfer.
Alors,
et sur le paradis.
La genèse de ce livre, elle est, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est parce que j'ai lu les deux œuvres et je les ai trouvées assez difficiles, pour tout dire. Il fallait.
Vous parlez de la Divine Comédie et de l'Épître
et de l'Épître du Pardon, mais j'ai tellement été ébloui par ces œuvres-là que j'ai dit que je voudrais écrire un livre pour les rendre accessibles à un grand public en donnant les clés pour leur compréhension. Et aussi, pour une autre raison, c'est parce que en essayant de chercher les livres de Ma'ari, j'ai eu énormément de difficultés à les trouver. Par exemple, pour avoir son livre de poésie Sartzend, j'ai mis 3 ans pour avoir un
copie. Sartzend, on le traduit par l'éclat du silex.
L'éclat du silex, voilà, l'éclat du silex. Il faut savoir que l'Épître du Pardon est de nos jours interdit dans pas mal de pays arabes et que son enseignement, malheureusement, devient de plus en plus maigre. Je voulais réhabiliter un peu ses œuvres pour que le public les connaisse, d'autant plus que le public oriental connaît très peu Dante.
Enfin, hormis les lettrés qui n'étaient pas offusqués de voir leur propre prophète, je parle des Arabes musulmans, être dans le pandémonium, le lieu de tous les démons en dessous de Jérusalem.
Tout à fait. Donc voilà, c'est un peu remettre à l'ordre du jour nos grands poètes arabes, qui sont délaissés malheureusement dans nos pays. C'était une motivation certainement très importante pour moi.
Alors ça c'est la motivation, mais pour nos auditeurs, l'Épître du Pardon, c'est le fait de répondre aux préoccupations d'un homme contemporain, un autre prosateur moins connu que Ma'ari, Ibn al-Qari'h. Et là, parce que celui-ci s'interroge sur son devenir dans l'au-delà, et donc il aurait souhaité avoir davantage de connaissances sur les tourments du feu de l'enfer pour les éviter autant que possible, et les délices paradisiaques pour pouvoir en jouir.
Alors, Ibn al-Qari'h, c'est le personnage central de l'Épître du Pardon. C'est un grammairien qui arrive un peu en fin de vie. Il n'a plus d'argent et il écrit une lettre à Ma'ari pour pour lui proposer une rente viagère, en réalité. Bon, Mahari est un peu agacé par cette lettre, mais il finit par y répondre. Et donc, et la réponse, c'est « Il imagine Ibn al-Qarah mort et arrivant au paradis ». Mais comme Ibn al-Qarah n'était pas un homme tout à fait sans vice, hein, son entrée au paradis est assez rocambolesque et très 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 drôle. Hein. Par exemple, il va se mettre sur le dos d'une femme, d'un ange, pratiquement, pour traverser le Sirat. Et donc, il arrive un peu au paradis.
Sirat, c'est cette voie,
ce pont oui, qui mène de la place de la résurrection au paradis et qui devient large lorsqu'on a on est un homme un bienheureux et puis qui devient étroit comme un fil pour un réprouvé et qui finit par tomber dans l'enfer. Donc Ibn al-Qarah arrive au paradis. Et là, qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre des personnages tout à fait improbables. Des gens qui sont rentrés au paradis, qui selon la doxa de son époque, n'auraient pas dû y être. Et c'est là où Mahari est extraordinaire, c'est que il nous montre à quel point Dieu est miséricordieux et qu'il accorde sa miséricorde à des gens improbables, à des laissés pour compte, parfois. Et puis, il écrit aussi ce livre qu'il ne faut pas oublier et peut-être une des toutes premières anthologies de la poésie musulmane. Pour éclairer Ibn al-Qarah, qui est prétentieux et qui a des avis un peu tranchants sur des très grands poètes arabes, pour l'éclairer sur la poésie arabe, sur le sens caché, sur le véritable sens des mots. C'est absolument délicieux. Quand on lit ce livre en arabe, on se régale.
Parce que Mahari est à la fois, a un sens de l'humour, de nos jours nous aurions dit « so British », si vous me pardonnez cet anglicisme, mais aussi il est caustique dans ses approches, et il a des critiques acerbes du milieu, surtout les théologiens ou les hommes de religion d'une manière générale. Pour revenir à la fameuse controverse, c'est que Miguel Assini Palacios, pour lui et son argument, c'est que la construction même des deux œuvres sont similaires. Et Virgile accompagne Dante dans sa comédie, parce qu'elle a été qualifiée de divine que bien plus tard, alors d'aucuns disent que c'est Boccaccio qui l'avait ajouté, d'autres disent que c'est un autre. Mais en réalité, c'est qu'on trouve Béatrice pour les dédales paradisiaques et Virgile pour accompagner Dante de voir ce qui se passe dans les différents cercles ou les bolges de l'enfer. J'anticipe sur le moment où on va parler un peu de cette controverse. Vous voyez vous-même qu'il y a une sorte de similitude ou pas ? Ou c'est un concours de circonstances ?
Je pense que les deux livres, les deux poèmes, sont très différents. Miguel Assine Palacios, lorsqu'il écrit l'eschatologie musulmane de la Divine Comédie, ne parle pas beaucoup de Mahari, ne parle pas beaucoup de l'épître du pardon. En fait, il parle beaucoup des contes de l'ascension au ciel du prophète Mohammed, Al-Isra ou Al-Ma'raj.
La chevauchée nocturne et l'ascension céleste.
Voilà. Il parle aussi de livres de Ibn al-Arabi et parle un petit peu de l'épître du pardon. Il faut savoir que l'épître du pardon est revenu sur la scène à peu près en même temps que l'eschatologie musulmane de la Divine Comédie de Miguel Assine Palacio. Donc, pour les Arabes de l'époque, en pleine période coloniale, c'était une grande fierté de redécouvrir ce chef-d'œuvre de la littérature arabe. Je pense qu'il y a une méprise. Je pense que Hacine Palacio parle essentiellement des contes de la montée au ciel du prophète Mohammed. C'est pour ça que j'y consacre un chapitre assez important pour que les lecteurs se fassent une idée de cette controverse. Il y a des similitudes assez troublantes. Je pense qu'il y a plus de similitudes entre la Divine Comédie et ses contes populaires que entre la Divine Comédie et
l'Épître du Pardon.
Et évidemment, les dentologues se sont été révoltés par cette comparaison. Et il y a eu tout un débat. Est-ce que Dante, à son époque, avait accès à des traductions de ces contes-là? Ça n'a pas été établi, mais je laisse au lecteur le soin de se faire une idée lui-même de cette controverse. Au fond, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense que la valeur poétique de ces deux textes est telle que cette controverse passe en second plan.
Oui, bien entendu. Ce dont vous parlez... J'ai failli vous dire à juste raison, mais vous pardonnez cette outrecuidance, mais vous le dites si bien, c'est que à la concision elliptique du Coran à propos de cet épisode de la chevauchée nocturne et de l'ascension céleste, puisqu'il n'y a que deux versets coraniques
Absolument.
Qui en parlent, il y a une telle prolifération par la suite et les décennies et les siècles qui suivent, qui en donne des descriptions qui frappent l'imaginaire de l'époque. Le premier verset est justement le verset numéro 1 de la sourate 17 qui dit « Gloire à celui qui fit transporter son serviteur adorateur de nuit de l'oratoire consacré à la mosquée éloignée dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. » Point. C'est tout. Et puis l'autre passage, c'est lorsqu'il y a eu cette description de « Il s'est tenu à une distance de deux portées d'arc ou moins encore afin... » Et son regard n'a ni dévié ni soutenu. Il y a encore quelques descriptions. Mais en dehors de ça, comment expliquez-vous, cher Ahmed Ben Salah, l'engouement par la suite et les descriptions au détail près de ce qui a pu se passer lors de cette chevauchée nocturne et cette ascension céleste?
En termes modernes, on dirait que c'est du marketing.
C'est pour vendre l'affaire.
Alors, il faut savoir que les sermonnaires, aussi bien chiites que sunnites, allaient sur les places de marché raconter cette histoire extraordinaire, magnifique, avec, en rajoutant plein de détails. Alors, ils étaient quand même contrôlés par les imams, qui les méprisaient, mais qui reconnaissaient que pour répandre la foi, il n'y avait pas mieux qu'eux. Donc, ces contes se sont répandus. Moi-même, quand j'étais petit, je me souviens, le soir, au mois de Ramadan, j'allais sur la place Halfaouine, en Tunisie, et j'écoutais ces histoires. J'étais subjugué, parce que c'est des histoires magnifiques. Il y a des anges extraordinaires, il y a des paysages formidables, on passe de l'espoir à la peur,
on a une monture ailée à visage humain, composite ainsi, dont le pas atteint la limite du regard. En physicien moderne, quand on a une monture dont le pas atteint la limite du regard, c'est qu'elle va à la vitesse de la lumière.
Voilà. Donc, voilà. Donc, toutes ces histoires D'ailleurs, c'est un de vos homonymes qui dit si l'islam devait être basé sur les livres de je ne sais plus quel imam important, mais ça ne serait qu'une petite secte, alors que grâce à ces contes, c'est devenu une religion énorme. Donc, je pense que... Alors, évidemment, beaucoup de gens étaient énervés par ces contes-là, qui répondaient des choses totalement... qui n'existent ni dans le Coran, ni dans aucun texte, et qui sont complètement imaginaires.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Ahmed Ben Salah, nous parlons de l'enfer, du paradis, d'une manière générale et quel sens doivent avoir ces notions de nos jours, mais surtout et tout particulièrement l'enfer et le paradis dans l'œuvre de Ma'ari, l'épître du pardon et son pendant dans la Divine Comédie de Dante. Et Ahmed Ben Salah est centralien, entrepreneur, essayiste, un homme d'une grande culture, un fin connaisseur de la tradition religieuse islamique et de la civilisation qu'elle a sous-tendue. Pour cette dernière partie, cher Ahmed Ben Salah, de nos jours, peut-on continuer à raconter ces faits ou faut-il les nuancer au risque de heurter la doxa droite? Faut-il y aller bille en tête ou trouver des stratégies de contournement?
Moi, de caractère, je dirais qu'il faut y aller bien en tête. C'est-à-dire établir un dialogue qui soit à la fois documenté et serein. Il ne s'agit pas d'affirmer des choses complètement stupides et sans aucun fondement. Il s'agit de discuter avec des gens pour apprendre d'eux et leur apprendre des choses. Donc, je crois qu'il faut dire les choses clairement.
Oui, c'est que dans certains cas, on expliquerait, j'utilise le conditionnel, les dérives extrémistes du djihadisme actuel par aussi, pas uniquement, des considérations millénaristes, nihilistes, apocalyptiques, et le fait de mépriser ce monde-ci pour accéder à un au-delà annoncé comme meilleur et durable. Sauf que, avant d'y accéder, il crée le chaos et le désarroi sur Terre. Il est temps peut-être de savoir expliquer que les notions d'enfer et de paradis n'ont qu'une approche intellective. Alors, dans les différentes visions que vous avez passées en revue avec érudition, il y a celle de la vision béatifique de Dieu, ou pas, parce que parfois celle-ci aussi est discutée. Il y a le fait de ne pas connaître des troubles intérieurs. Mais qu'est-ce un Dieu qui s'accommoderait de la souffrance des gens, et à chaque fois que leur peau est consommée, il y en aura une autre qui viendrait à la place? C'est de la torture, et ça ne va pas de pair avec la notion d'un Dieu miséricordieux.
C'est là tout le génie de Marc. C'est qu'il a réussi à quelque part déconstruire le dogme courant, en tout cas, pas le dogme, le dogme courant de l'enfer et du paradis, pour en faire des lieux beaucoup plus apaisés. Même en enfer, même dans l'enfer de Mahari, les gens ne perdent pas leur liberté d'expression. Il y a quelque chose de très doux dans la vision de Mahari de l'au-delà. Quelque chose qui dit que Dieu finalement va prendre tous les humains qu'il a créés et les accepter et les protéger. Je crois que on a besoin de visions qui soient moins violentes.
Le contre-argument, c'est qu'il faudrait quand même qu'ils passent un moment pour expier leur injustice sur Terre.
Oui, il y a des gens. Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'enfer n'a pas tout à fait disparu chez Marc.
Il a anticipé l'idée que l'enfer, on devrait dire, ce sont les autres. L'enfer, c'est les autres.
Ouais.
Parce qu'il se présentait, il se décrivait comme otage de deux prisons. Après, il en ajoutera une troisième, celle de la cécité et le fait de vouloir rester reclus chez lui, de ne pas sortir. Et après, il a rajouté aussi le fait
d'avoir un corps.
Et son âme ne sort pas de son corps, tel un scaphandre, en quelque sorte. Et n'oublions pas que Mahari, on est à la charnière du 10e, 11e siècle. Donc il a anticipé par sa réflexion, et c'est effectivement un homme de raison, et qui a privilégié la raison, pour déconstruire, pour parler un peu comme Derrida, cette question du paradis et de l'enfer. Sinon, quel sens donne-t-on au désir et au plaisir charnel qu'on promettrait aux gens bienheureux?
Mahari n'arrête pas de répéter dans son livre de poésie à l'Uzumiette les impératifs que la seule religion qu'il a, c'est d'être juste envers tout le monde.
Y compris les animaux.
Et je pense que... Il regrette même de ne pas avoir commencé plus tôt dans sa vie, dans cette voie-là. Donc, bien sûr, il faut commencer ici-bas et faire que ce monde soit moins horrible qu'il ne l'est actuellement.
Et il dit aussi, si nous restons uniquement dans l'œuvre de Mahari d'une manière générale, ceux qui ont une religion sans esprit ou sans raison, et ceux qui peuvent avoir une raison et un esprit sans professer nécessairement une religion.
Oui.
Ce qui explique que certains l'avaient taxé d'hérétique, voire d'apostat, et d'autres voyaient en lui le véritable déiste, sans être contraint nécessairement à être dans le choix d'une tradition religieuse déterminée.
C'est vrai. Je voudrais quand même revenir deux secondes sur Dante.
Oui, bien entendu.
Parce que la Divine Comédie, c'est un livre sur le chemin du salut. C'est un livre qui où Dante va bénéficier d'une grâce divine extraordinaire pour pénétrer dans l'enfer et montrer aux gens ce qui les attend s'ils vraiment, il y a quelque chose d'assez pédagogique de leur montrer avec des exemples contemporains à l'appui pour leur montrer. Et puis, la montée vers le ciel, le passage au purgatoire et
dans lequel il rencontrera Averroès et Avicenne présentés comme les maîtres de ceux qui savent.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Dante a été très très séduit par l'avéroïsme. D'ailleurs, il met le maître de l'avéroïsme qui était vilipendé par l'Église catholique, Sigère de Brabant, au paradis et il le réconcilie avec saint Thomas d'Aquin. C'est pas rien pour l'époque. Les philosophies de Mahari et de Dante diffèrent en ce sens que, quand même, on peut dire que Dante est beaucoup plus proche de l'orthodoxie chrétienne que ne l'est Mahari de l'orthodoxie musulmane. Ça, c'est évident. Hein. Les libertés que prend Mahari sont beaucoup plus grandes. Et en même temps, Mahari dit à tout homme, vous avez une raison, utilisez-la. C'est grâce à elle que vous allez être heureux ici-bas.
Donc, oui. Et la dignité de l'homme, c'est le fait d'utiliser, d'exercer et d'aiguiser sa raison.
Oui, voilà. Ne vous laissez pas berner par tous ces faussaires. Hein. Utilisez votre raison et ne croyez qu'en elle.
Vous évoquiez ce plaidoyer pour la raison qui est cher à Mahari, il ne s'empêche pas de vilipender parfois, y compris des soufis et des mystiques, quand ils exagèrent, selon lui, dans leur description de certains miracles, le fait de marcher sur l'eau, des choses comme ça, parce que pour lui, ils sont en train de fragiliser les esprits des croyants.
Mahari, parfois, attaque des gens il est imprévisible dans ses livres. Il attaque tous ceux qui fragilisent la raison, y compris les soufis, mais y compris aussi les exégètes et y compris les régnants et tout le monde. Et vraiment, il veut que l'homme revienne sans cesse à utiliser sa raison comme seul maître. Et je pense que son attaque sur les soufis n'est peut-être pas la plus virulente. Mais il y a des attaques beaucoup plus virulentes que...
Contre les théologiens.
Contre les théologiens certains, particulièrement.
Hein. De nos jours, on aurait dit les gestionnaires du sacré et les entrepreneurs religieux.
Voilà.
Il y a deux autres...
Il y a par exemple, il y a une défense assez intéressante de Mahari de Hallej.
Oui.
Hein, dans l'Épître du Pardon, justement, où il dit qu'il a une belle poésie.
Ces attaques des soufis ne sont pas systématiques et ce n'est pas pour l'ensemble des soufis. Il y a ceux qui, dans leur... pratique mystique ajoute un comportement qui n'est pas conforme à l'entendement humain. Mmh. Et pour lui, continuer dans cette veine-là n'est pas fait pour éclairer les esprits.
Voilà. Il insiste beaucoup pour éclairer les esprits de la masse, les éduquer, etc. Et il ne pense pas que la démarche des soufis est faite pour éclairer et éduquer la masse du peuple.
Il y a deux autres aveugles, un avant lui, un qui lui est postérieur. C'est Bachar le premier, Bachar Ibn Burd, et Taha Hussein. Ouais. On dit en gros les trois aveugles et qui ont produit quelque chose, et notamment là nous parlons de Ma'ari, pour l'humanité. Sans ce qui était atteint de cécité, mais qui ont une mémoire prodigieuse et une production d'une grande prolifération pour leurs semblables.
Ma'ari dit « Je suis aveugle, mais je vois plus clair que vous ». Et puis, il faut dire que Taha Hussein a énormément d'empathie pour Ma'ari. Il a écrit trois livres sur Ma'ari et il a poussé Aïcha Abdelrahman à soutenir sa thèse sur l'épître du pardon. Il a été un de ses directeurs de thèse. Quant à Bachar Ibn Burd, c'est autre chose.
On est dans la poésie.
On est dans la poésie. Je pense que Ma'ari a une admiration folle pour les poètes. Il leur pardonne tout. Bien qu'il ait mis Bachar en enfer.
Bien, alors merci infiniment.
Merci à vous.
Merci, cher Ahmed Ben Salah, d'être venu nous parler dans cet entretien de la notion de l'enfer, du paradis, d'une manière générale, de leur signification au XXIe siècle, un peu la prolifération qu'il pouvait y avoir au Moyen-Âge de cette symbolique, et tout particulièrement dans deux œuvres qui relèvent de chefs-d'œuvre de la poésie universelle, l'Épître du pardon de Ma'ari et la Divine Comédie de Dante. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manon Houssin et la réalisation est assurée par l'ami François Connac.